supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Le Conseil constitutionnel aura été saisi à deux reprises par les parlementaires et par la présidente de l'Assemblée nationale, sous le numéro 2023-4 RIP. Conformément au quatrième alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la proposition de loi visant à affirmer que l'âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Donc, dans ce cadre défini, le Conseil constitutionnel doit contrôler la conformité à la Constitution de la proposition de loi et d'autre part de veiller au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution. Pour l'organisation, soyons précis, ça c'est dans l'article 11, d'un référendum. Tu voulais qu'on le relise l'article 11, mais il est...
Non, c'est pas nécessaire, t'as très bien résumé. Sauf qu'il faut rappeler encore que ça veut pas dire que le référendum sera fait directement.
Voilà.
Une fois que le Conseil constitutionnel a donné son accord... Il faut obtenir 4 856 000 signatures.
Oui, ce que je vais expliquer.
Et qu'on a 9 mois pour le faire.
Donc, le Conseil constitutionnel en a déduit que ce texte de loi sur la réforme de retraite est relative à la politique sociale. Elle ne répond pas au sens de l'article 11 de la Constitution. Dès le 13 avril, anticipant le rejet de la première demande de RIP, les parlementaires de gauche en avaient déposé un deuxième. Le Conseil constitutionnel, donc, a tranché ce mercredi sur la deuxième demande de RIP. Ne restons pas étonnés de la réponse et une fois de plus de l'attitude de notre gouvernement et de son grand patron Macron. Je me servirai d'un article d'André Bellon du samedi 29 avril en réponse à ce qui se passe dans notre pays. Et je l'approuve totalement, cet article. Son titre, « Le pouvoir à l'assaut du contrat social ». Bon, bien sûr, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais j'en garde l'essence même. Il dit que le président tient son programme, qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'existe pas, ou s'appuie sur des votes démocratiques, entre parenthèses, qui méritent vraiment analyse, comme il ne suffit pas de protester contre l'usage des casseroles ou de condamner quelques gestes, certes excessifs, pour rétablir une confiance bien nécessaire en démocratie. Emmanuel Macron tente une fois de plus d'utiliser le pas de côté pour se rétablir. Il prétendra retrouver le dialogue avec les Français, non pas pour débattre du fond, mais pour combattre l'image d'isolement de plus en plus fort qui l'assaille. C'est pourquoi lui-même, autant que ses fidèles, inverse la question en prétendant isoler les citoyens furieux contre le président. Ainsi, Macron, lorsqu'il évoque le sentiment de déclassement ou d'abandon, tentative pitoyable pour psychologiser les réactions des citoyens, et ainsi Gabriel Attal, lorsqu'il tente de mépriser les manifestants en prétendant parler à ceux qui travaillent contre ceux qui accueillent les ministres, ainsi également que Madame Borne regrette qu'il n'y ait pas eu de dialogue, et c'est dans ce contexte malheureusement classique désormais qu'Emmanuel Macron décide souverainement qu'il rétablira la confiance, le dialogue. Bref, une sorte de contrat social minimal en 100 jours. Ça commence mal. Il y a quelque chose de pourri dans la vie politique en France aujourd'hui. On peut discuter sans fin quant à la pertinence d'une réforme des retraites. mais il restera toujours évident que la question principale était la volonté d'Emmanuel Macron d'affirmer son pouvoir, de passer en force en anéantissant toute contestation. En ce sens, la motion de censure interrogeait avant tout sur la légitimité d'un pouvoir à bout de souffle. Voilà, là c'était parole d'André Bellon. Mais je reprends dans le détail du RIP version 2. Les parlementaires veulent, par une consultation populaire, interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans. Soit ce qu'ils avaient déjà proposé dans la première demande est retoqué par les fameux sages. Aujourd'hui, en plus du retrait de l'âge légal à 64 ans, les socialistes, et ça on ne l'a pas dit, ont complété leur proposition en prévoyant de demander également par référendum une contribution significative des revenus du capital au financement des retraites, afin que le Conseil constitutionnel considère cette évolution de la fiscalité comme une véritable réforme. Cette nouvelle forme de référendum, le RIP, est désormais prévue à l'article 11 de la Constitution, que je ne relis pas, hein. Mais je reviens dessus parce que c'est Sarkozy qui a laissé ce cadeau plus ou moins empoisonné en introduisant la procédure du RIP dans la Constitution de la Ve République, et ça en 2008. Entrée en vigueur seulement le 1er janvier 2015. Donc, un référendum d'initiative partagée, ce fameux RIP, défini à l'article 11 de la Constitution, qui permet d'organiser un référendum sur une proposition de loi présentée par au moins un cinquième des parlementaires, allez, on va dire 185 députés et sénateurs, et par un dixième du corps électoral, vous, les citoyens français, inscrits bien sûr sur les listes électorales, la proposition de loi doit être soutenue par 10% des électeurs, donc du corps électoral des Français, soit plus de 4,7 millions de personnes environ.
4 856 000.
Ah oui, 856 000. Dans cette hypothèse, c'est le Parlement qui apparaît aux côtés du peuple, et non plus uniquement le président de la République. Si le seuil des 10% d'électeurs est atteint, chacune des assemblées dispose d'un délai de 6 mois pour examiner la proposition de loi soumise au RIP. Attention, il faudra donc, bien...
Juste oui petite annotation pour les gens qui suivraient mal, on a 9 mois de délai pour obtenir les signatures et 6 mois pour que ça passe devant les deux assemblées. Donc on est déjà à 15 mois après le déclenchement.
Donc vous voyez, mais alors attendez, c'est encore mieux Poupa. C'est qu'il faut bien aussi remplir le formulaire qui sera sur Internet. On est d'accord. Et ce formulaire n'a rien de simple, hein, on est d'accord.
Ah bah, il faut donner son numéro de carte d'identité ou de passeport, par exemple. Il faut être inscrit sur les listes électorales, bien sûr.
Avec, je crois, un numéro aussi.
Non, c'est non, le bureau de vote auquel on est inscrit. Ah, il faut indiquer le bureau de vote où on est inscrit.
Et alors, on ne l'oublie pas, parce que ce référendum, ce fut un fiasco, ce RIP, sur la question de la privatisation des aéroports de Paris et abandonné par le gouvernement.
Il un fiasco, bien je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a eu plus de 2 millions de signatures, ce qui est quand même un exploit, quoi.
Oui, mais ça n'a pas abouti.
Non, de toute façon, il a abandonné cette privatisation. Mais 2 millions de... Moi qui l'ai fait voter ardemment...
Sur le marché de Moissac.
Voilà, sur le marché de Moissac. je suis responsable, sur ces 2 millions, je suis responsable d'environ une cinquantaine de signatures. Je pense que si on se mobilise, on peut même obtenir les 4,8 millions.
Voilà, il faut se mobiliser. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, voilà. Bon, pour finir sur ce RIP, en fait, c'est quand même, si vous voulez, une façon dans cet article 11 qui aurait pu être un petit peu plus accessible au peuple, entre guillemets. Mais finalement, tel qu'il est construit dans cet article 11, pour moi, ça reste quand même un acte assez démago de notre Constitution. Parce qu'on sait très bien les difficultés et la complexité du RIP. Donc là aussi, on pourrait revenir sur cet article 11, entre autres. Hein. Mais figurez-vous, je voulais rappeler donc sur notre site, pour une constituante, que j'avais retenu aussi un article d'un constituant, Pascal Gégère, du 15 mars 2021. Donc c'est pas nouveau, hein. Militer pour l'élection d'une assemblée constituante. Parce que c'est là, si vous voulez, quand moi je fais mon émission pour une constituante, faut pas oublier que je suis un membre d'un collectif, d'une association qui s'appelle Pour une constituante, et que ça j'y crois. Je pense qu'il faut que les citoyens se remobilisent. Donc voilà ce que dit Pascal Gégère dans son article. La révolte est en cours. En réalité, je devrais dire, des révoltes sont en cours. Car il en existe plusieurs, de formes et d'intensités différentes. Des révoltes épisodiques, parfois spectaculaires, car elles embrasent des quartiers entiers de grandes villes comme Lyon, Grenoble, Strasbourg, Nantes, je rajoute Toulouse. Mais souvent tues, passées sous le boisseau, car insuffisamment télévisuelles. Sauf que lorsqu'elles proposent des images spectaculaires de voitures incendiées ou l'attaque à coups de mortier des représentants de la République, alors là, il s'agit généralement de réactions, soit de trafiquants de drogue, courroucés de voir les forces de l'ordre investir leur territoire. Bon, on parle aussi beaucoup des Black Blocs, hein. Des révoltes plus spectaculaires, car initiées par des citoyens ordinaires en colère. Donc on se souvient des Gilets jaunes, mais aujourd'hui, quoi, 12 manifestations relativement mobilisées, et ça c'est bien. Malheureusement, toutes ces manifs sont trop rapidement récupérées par des groupuscules n'ayant d'autre motivation que d'en découdre avec le pouvoir en place. Trop souvent disparates et dispersées, et elles finissent par s'estomper, engendrant une amertume qui obscurcit davantage l'horizon d'une démocratie apaisée. Enfin, des révoltes plus sourdes, souvent attisées par des idéologies politiques vieillissantes en quête de renouveau. Des révoltes prenant leur force dans la volonté de quelques gourous à fragmenter l'esprit républicain afin d'instaurer leur vision communautariste de la société. Ainsi, les raisons profondes qui militent pour l'élection d'une assemblée constituante prennent naissance dans ces impasses dans lesquelles les politiques économiques déshumanisées menées depuis plus de 50 ans ont conduit la nation. C'est au peuple à redéfinir la société dans laquelle il entend vivre. Ce ne sont pas les candidats à l'élection présidentielle qui doivent l'envisager et finalement imposer celle de leurs financeurs une fois élus. C'est au peuple seul à qui revient le privilège de définir cet avenir et aux hommes politiques de mettre en œuvre les moyens que la République met à leur disposition pour y parvenir. Il y a une inversion de paradigme. La politique de la nation ne doit pas être la chasse gardée des politiciens. C'est au peuple constituant à qui revient cette prérogative. C'est également au peuple de fixer, par la Constitution, les règles incontournables de sa souveraineté. Cela signifie que les représentants élus soient responsables devant les citoyens de leurs actes et décisions. Il est clair que le peuple ne peut se contenter de recouvrer sa souveraineté à chaque élection et qu'entre-temps sa souveraineté lui soit confisquée. Cela signifie concrètement de repenser l'exercice de la démocratie en France. Enfin, c'est au peuple de redéfinir la place et le rôle des institutions de la République. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social et environnemental. C'est aussi au peuple de fixer le rôle et la place des partenaires sociaux. Seule l'élection d'une assemblée constituante permettra à la nation de retrouver sa puissance et au peuple constituant son pouvoir. C'est sur quoi notre association pour une constituante s'affaire. Allez, une petite pause musicale avec une chanson de Boris Vian que je vous laisse écouter.
Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole nous reviendra pas. Jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert à Beaujolais vrai de vrai un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre cette porte et sors des verres. Ne t'ostine pas ou sans ça le prochain coup, ma parole je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même, et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Et puis on est descendu chez Satan, et en bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par venir déménagement.
Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne peut exister de contrat social dans un tel contexte. D'ailleurs, l'idée même du contrat social a-t-elle encore un sens alors que l'idée même de peuple est quotidiennement méprisée? Que ces violences, comme on vient d'en parler, que ce qu'il se passe aujourd'hui dans la rue, mais aussi dans certaines entreprises, c'est incroyable. Les institutions qui fondent la vie politique sont un bien public. Elles appartiennent aux citoyens et au peuple dont ils sont membres. Elles ne sont démocratiques que lorsque ces citoyens en reconnaissent la légitimité, ce qui est de moins en moins le cas. C'est pourquoi l'élection d'une constituante est nécessaire aujourd'hui. Elle est un symbole démocratique, rassembleur, en remettant à plat les règles d'un système, d'un jeu politique devenu illisible, de moins en moins légitime et même aujourd'hui porteur de danger. Il est légitime aujourd'hui de crier sa colère. Trop d'injustices sociales, trop d'injustices fiscales, du non-respect de tous les contrats. Il va falloir lutter contre la dépolitisation du corps électoral que nous sommes. Des citoyens aujourd'hui sont regroupés en associations, en collectifs, en mouvements, comme pour notre association pour une constituante. On essaie de penser et d'aborder les sujets de société qui nous concernent. Il faut réfléchir à l'engagement de chacun et aux moyens de se faire connaître et de vouloir pour enfin garantir un vrai débat public contradictoire. Il faut y réfléchir tous ensemble, individuellement, pour créer un collectif d'idées. Les grands événements d'émancipation de 1789, la Révolution, mais après 1830, 1848, 1871, par les citoyennes et les citoyens résistants, ont permis la réaffirmation de la citoyenneté et de la souveraineté du peuple. Ils ont su faire face aux positions royalistes, dictatoriales, impérialistes. Il en est de même aujourd'hui et nous devons faire face aux néolibéralistes, au capitalisme, aux oligarchistes qui bafouent nos droits, nos institutions, donc notre santé, notre dignité. Et au nom de quoi ? D'une économie destructrice à coups de corruption. Les crises économiques, c'est eux. Le sujet politique ne doit plus être tabou. Assumons nos convictions et acceptons d'en débattre. Que de grands projets destructeurs pour notre environnement, remis en cause à ce jour, grâce à qui ? Grâce à eux, à cause d'eux. Et là, il faut que nous aussi soyons conscients de cet avenir que nous allons proposer. Il est temps d'élire une constituante, la seule voie pacifique permettant l'écriture d'un contrat social, nous redonnant la plénitude de nos droits. Cette constituante ne peut se faire que par nous. Et nous devons nous y préparer. Donc pour nous, notre avenir, nos enfants. Voilà, ça fait un discours un petit peu militant ou pas, bien sûr. J'ai envie de vous dire que j'allais organiser, je l'espère, sur Moissac, je dis peut-être dans les semaines. En tous les cas, j'aimerais bien avant cet été, un débat, organiser un débat politique ici. Et qu'on puisse enfin s'exprimer, avoir une volonté, savoir qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous voulons. Nous, tous les cas, on a bien compris que beaucoup, et je pense que si aujourd'hui on devait faire un référendum, un RIP, même partagé, parce que bon, il a été longtemps question aussi, et d'une demande de RIC, mais pour ça, il faudrait aussi changer la Constitution. En tous les cas, si c'est pour le RIP, et ce serait intéressant aujourd'hui qu'on ait plus de 5 millions d'électeurs, en tous les cas, pour y participer. Poupa, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, si ce n'est en modifiant même le RIP et en rediminuant ce seuil de 10%, à noter que ça existe dans plein d'autres démocraties occidentales et que jamais on est à 10% du corps électoral. On est à... alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais on est en général entre 2 et 5% du corps électoral.
On n'arrive pas à 5% en tous
voilà.
Les cas. Oui, je vais,
c'est 10%, c'était 4 800 000 signatures. C'est-à-dire 4 800 000 personnes qui doivent donner leur numéro de carte d'identité ou de passeport, retrouver leur carte d'électeur s'ils ne votent plus, comme beaucoup, pour savoir à quel bureau ils sont inscrits et qu'ils soient correctement inscrits. Parce que je rappelle que ce n'est que le corps électoral. Donc quelqu'un de tout à fait honnête, aucune condamnation, mais qui, lors d'un déménagement, ne s'est pas réinscrit sur les listes électorales. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande à quel bureau vous êtes rattaché. Puisque vous êtes radié des listes électorales si vous avez déménagé, et sauf si vous vous réinscrivez ailleurs. Donc voilà.
Donc remettez à jour aussi tout ça si vous avez déménagé, effectivement. Tu peux dire, allez vérifier si vous êtes bien inscrit sur votre liste électorale. Je pense que c'est vraiment très important. Alors, avant de vous quitter, je voulais faire une petite pub là pour une école. Ça s'appelle Écolo Naturel, qui est à Castelsarrasin. Et c'est une école, l'école des cloutiers, donc à Castelsarrasin. Et c'est intéressant parce qu'ils sont issus, bien sûr, du mouvement Colibri. Et ils organisent donc une journée porte ouverte dans cette école avec tout un programme très intéressant qui commencera d'ailleurs à 10h du matin par une fresque du climat, version adulte. Et puis, il y en aura une autre l'après-midi pour une version enfant. Et puis des ateliers, vous voyez, comme quoi je vous disais qu'il y avait des citoyens qui s'engageaient. Eh bien, je pense que sur cette journée-là, c'est assez formidable de voir toutes les petites conférences qui sont entre l'écoute, le plaisir d'apprendre, comment apaiser le temps des devoirs pour les enfants, jardiner au naturel, le compostage, cuisiner éco-responsable, le repère café pour aller à l'encontre d'une hyperconsommation et de jeter tout. Voilà, et puis fabriquer comme son cerf-volant, une petite cabane aux oiseaux, et puis rencontrer des gens formidables. Voilà, là, ça, c'est du lien. Et bravo, donc, pour cette école et leurs dirigeants. Voilà, qui organise une belle journée, donc, le 14 mai, de 9h30 à 17h30, à l'école des Cloutiers, à Castelsarrasin. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin, débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs côtes du Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y'a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.